soyez les bienvenus. Nous allons maintenant reprendre le cours de nos travaux. Merci. Nous allons maintenant reprendre le cours de nos travaux et après avoir fait un long périple à travers l'histoire, en montant dans le temps jusqu'à la bataille de Solferino, jusqu'à la publication du livre et suivre le destin de ce livre à travers l'histoire, le but est maintenant de revenir à l'actualité avec une table ronde sur les problèmes du témoignage et de l'action, comment concilier témoignage et action aujourd'hui. Et j'ai le plaisir de saluer les participants à la table ronde. Je vais présenter le modérateur, M. Dominique von Bourg, qui est un journaliste à la fois de la presse écrite et de la télévision, qui est bien connu des Genevois parce qu'il a été pendant plusieurs années rédacteur en chef de la Tribune de Genève et qui est maintenant le président du Conseil suisse de la presse. Et on est très heureux et reconnaissant qu'il ait accepté d'être le modérateur de cette table ronde. Et je crois que je vous laisserai le privilège de présenter vous-même les panélistes.
Merci. Tout d'abord, pour vous dire en gros comment ça va se passer, chacun des participants, je les présenterai dans l'ordre où ils vont s'exprimer. S'exprimera pendant 5 à 7 minutes, pas plus, j'y veillerai, pour lancer le débat. Ensuite, ils auront l'occasion à la table de reprendre l'un ou l'autre des autres sur des points où ils aimeraient compléter ou contester, que sais-je. Mais cette partie-là ne sera pas trop longue pour qu'on puisse vous donner la parole aussi tôt possible, parce que j'imagine que c'est un débat qui va susciter des réactions chez vous et des questions. Nous ne terminerons pas plus tard que 16h, parce que vous avez déjà tout un colloque derrière vous, qui, bien que très intéressant, hein, est très astreignant. Moi, j'ai assisté qu'à cette matinée, et je dois dire que c'est oui, il faut le faire. Donc, 16h au plus tard, c'est sûr, et si jamais on s'aperçoit que les combattants ont plus d'armes ou plus de souffle, on arrêtera les marrons. Mais je crois qu'avec les panélistes qu'on a, le débat revient d'être riche, je n'ai aucune crainte à ce sujet. Alors, participeront au débat Madame Marius Desgrandchamps, qui est assistante en histoire à l'université, qui prépare une thèse sur la guerre du Biafra. Madame Doris Schoppel, qui est professeure de la faculté de médecine et qui est présidente du Centre d'enseignement et de recherche en action humanitaire et surtout qui a un long passé à Médecins sans frontières. Nous parlons notamment de cette expérience dans la perspective de l'autre thème. Et puis, sur ma gauche, Yves Dacorde, qui est, comme vous le savez, directeur général du CICR, et qui, accessoirement, illustre bien la tâche selon quoi le journalisme est à tout, puisque Yves Dacorde, à condition d'en sortir, de toute façon, tout à fait, puisque j'ai eu le privilège de participer à la formation d'Yves Dacorde, quand il était stagiaire à la télévision suisse romande il y a quelques années. Et il nous a quittés, on a bien regretté, mais il trouvait franchement que c'était un peu trop calme. Et enfin, Thérèse Obrecht, que vous connaissez certainement aussi, qui, elle, illustre le contraire, non pas que le journalisme mène à tout, mais que tout mène au journalisme, puisque sa première heure de gloire, ses premières photos dans les gazettes, c'était à l'occasion de la médaille olympique qu'elle a value à la Suisse, à Grenoble, je lui ai parlé.
Médaille d'or.
Et puis donc, à part ça, à actuellement être présidente de Reporters sans frontières, présidente suisse de Reporters sans frontières, et qui a une longue carrière de journaliste, notamment à l'étranger, notamment à Moscou, en Russie, où elle a été longtemps correspondante à la télévision suisse romande, du Nouveau Quotidien, du Temps et d'autres journaux. Voilà. Alors, je donne la parole tout d'abord à Madame Desgrandchamps, pour nous cerner la problématique sur le cas de la guerre au Vietnam.
Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de la table ronde et du colloque qui m'ont invité à participer cet après-midi. J'aimerais aussi, pour démarrer, préciser la posture avec laquelle j'ai l'intention d'aborder la question du lien entre témoignage et humanitaire, qui parcourt, à mon sens, l'histoire de l'humanitaire. En tant qu'historienne, j'ai bien entendu pas du tout la prétention de déterminer s'il faut ou aurait fallu témoigner dans telle ou telle crise humanitaire, mais plutôt d'essayer d'analyser la pratique du témoignage, ses implications et de voir comment elle a été ensuite mobilisée par différents acteurs. Alors, comme cela a été dit, pour m'intéresser à ces questions, je pars du cas concret de la guerre du Biafra, sur laquelle je travaille maintenant depuis plusieurs années. Cette guerre, qui se déroule au Nigeria à la fin des années 60, représente, pour de nombreux auteurs et acteurs de l'humanitaire, une rupture dans l'histoire de l'humanitaire, dont les lignes passent, entre autres, autour de la question du témoignage. Elle est même qualifiée par certains de nouveau Solferino. En effet, c'est après ce conflit qu'est créée l'organisation Médecins sans frontières, qui symbolise le recours au témoignage en opposition au CICR, qui incarne plutôt le refus de recourir au témoignage, et le choix d'une politique de discrétion. Je pourrais développer un peu plus précisément toutes ces questions ensuite dans la discussion si vous le souhaitez. Mes recherches sur la guerre du Biafra m'amènent à dégager trois points dont il me paraît intéressant de discuter dans le cadre de cette table ronde. Le premier point que je souhaiterais souligner est un problème de définition. De quoi parle-t-on quand on parle de témoignage ? S'agit-il de parler dans les médias, de communiquer sur les souffrances d'une population et ainsi de suite ? Ou alors s'agit-il de dénoncer une violation des conventions de Genève, par exemple, ou la responsabilité de l'un ou l'autre camp dans une situation de crise. Dans le cas de la dénonciation, ça pose beaucoup plus de problèmes. Et si je fais cette distinction, justement, entre l'information et la dénonciation, c'est parce que dans le cas de Biafra, le CICR en particulier réagit de manière très différente à ces deux façons de s'exprimer publiquement. Dans le premier cas, donc le cas plutôt informé, la prise de parole est plutôt encouragée par le CICR qui ressent la nécessité de communiquer et de faire connaître ses activités. Dans le second cas, elle nécessite beaucoup plus de précautions et est l'objet de discussions beaucoup plus importantes au sein de l'institution. Cette remarque m'amène à aborder un second point, à savoir l'ambiguïté des effets du témoignage. Le Biafra, à cet égard, représente un cas particulièrement éclairant, puisque la dénonciation de la responsabilité d'un camp dans la crise humanitaire pose la question de la connaissance de la situation. Rodney Broman, d'ailleurs, depuis, a plusieurs fois soulevé la difficile appréciation de ce que les autorités donnent à voir dans les situations de crise humanitaire. Et on peut se demander, en effet, dans quelle mesure est-ce qu'un témoignage n'est pas en train de reproduire le point de vue de l'un ou l'autre des belligérants. En outre, dans la crise biafraise, l'importante médiatisation qui accompagne la famine a suscité de nombreux débats et a parfois été perçue même comme un facteur de prolongation du conflit et donc de la crise humanitaire. Enfin, un troisième point qui m'apparaît intéressant de souligner, c'est la prégnance de cette question du témoignage dans les ouvrages et la littérature sur l'humanitaire. En effet, pour de nombreux auteurs, le principe de l'utilisation ou non de l'opinion publique est devenu central. Ce dilemme est fondamental, effectivement, pour les organisations qui cherchent à se positionner par rapport à ce débat. Mais cette réflexion sur les principes masque parfois d'autres aspects qui peuvent aussi bien participer à façonner une prise de position de la part d'une organisation. À nouveau, le cas Biafra est intéressant parce qu'on voit très bien comment le CICR réagit de manière pragmatique quand il s'agit de communiquer, de mobiliser l'opinion publique, et loin d'appliquer un principe de discrétion très figé. Il apparaît donc nécessaire de s'intéresser avant tout aux pratiques des acteurs, à leur fonctionnement interne, afin d'essayer d'aller au-delà de certaines représentations parfois caricaturales des organisations sur la question du témoignage. Ceci aussi, il convient de ne pas l'oublier, pour essayer d'éviter de surestimer l'importance de cette question, alors que beaucoup d'autres problèmes me semblent importants d'être pris en considération dans l'analyse et la réflexion autour des opérations humanitaires. Voilà, il s'agit de quelques considérations générales et je vais pouvoir approfondir après dans la discussion si vous le souhaitez. Je vous remercie de votre attention.
Nana. Si vous êtes d'accord, on réserve les questions à l'un ou l'autre orateur pour la deuxième partie, la partie suivante, vous aurez la parole. Et je passe donc la parole sans attendre à Mme Doris.
D'accord, merci beaucoup. Je remercie Mme Desgranchamps parce qu'en fait, elle a déjà fait une partie de mon introduction. Parce que, évidemment, quand j'ai pensé ici, on est dans un colloque Solferino, puis la suite. Et Solferino, bien sûr, c'était le témoignage d'une personne à partir duquel il y a eu un appel à la création d'une organisation d'aide. Vous connaissez tous très bien. Et c'est vrai que dans le cas du Biafra, qui est à l'origine de Médecins Sans Frontières, c'était en fait. Le mythe fondateur de Médecins Sans Frontières, en tout cas, veut que cette opposition s'exerce, justement parce que la question du témoignage divisait. Alors, je dis c'est un mythe parce que les historiens maintenant se penchant dessus, je veux dire, on peut regarder ça de différents côtés, je ne vais pas approfondir cela maintenant, on pourra en parler tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est que les pères fondateurs de Médecins Sans Frontières, comme celui de Cicère, ce n'étaient que des hommes, et c'était les médecins et les journalistes. Donc vous voyez qu'en tout cas, la partie communication était déjà présente lors de la fondation de Médecins Sans Frontières. Alors, l'exemple de Médecins Sans Frontières, bien sûr, est un aspect particulier du témoignage, vu que Médecins Sans Frontières a un mandat extrêmement différent de celui de Cicère, que c'est un mandat d'apporter de l'aide médicale dans les situations d'urgence à des populations en détresse. Donc le témoignage de Médecins Sans Frontières, qui est absolument, qui fait partie quelque part du mandat que MSF s'est donné lui-même, vu que c'est un mandat auto-imposé et non pas comme celui du CSR, un mandat auquel sont signataires différents États, c'est un témoignage basé sur les faits, sur les chiffres et sur les témoignages tant de personnes qui travaillent pour Médecins Sans Frontières que pour des patients. Et ça, c'est très important, j'y reviens tout à l'heure, en termes d'éthique, ça pose beaucoup de questions quand on parle du témoignage à Médecins Sans Frontières. Comme Mme Desgranchamps l'a dit, le témoignage va de l'information à la dénonciation, et donc c'est toute une panoplie qui pose bien sûr des problèmes très différents. L'information se fait pratiquement au quotidien, mais quand on parle de dénonciation, c'est des cas extrêmement rares. Je dirais que le fondamental du témoignage à Médecins Sans Frontières, c'est de dire on témoigne pour avoir un impact positif, un bénéfice pour les populations auxquelles on essaie de venir en aide. Alors ça, je dirais, c'est l'idéal. Évidemment, dans la pratique, ce n'est pas toujours le cas, parce qu'évidemment, il est parfois difficile de savoir est-ce que l'effet va réellement être bénéfique. Mais l'intention est celle d'un effet bénéfique. L'autre chose qui était particulière à Médecins Sans Frontières en comparaison au CICR, mais d'accord, on ne dit pas si c'est vrai ou pas, c'est qu'à Médecins Sans Frontières, on peut distinguer deux types de responsabilités. Il y a la responsabilité institutionnelle, où Médecins Sans Frontières dit le témoignage est toujours un choix et une ambition, mais jamais une obligation. Et puis, il y a le témoignage individuel, c'est-à-dire des personnes qui, sur le terrain, sont confrontées à des situations intenables, à des situations d'abus, etc., et qui témoignent directement, ou qui sont aussi confrontés à des situations en termes de soins de santé qui sont intenables et qui témoignent directement. Médecins Sans Frontières, c'est possible. Je pense que l'espace pour le témoignage individuel s'est rétréci au cours des années, et là aussi, c'est un débat, je veux dire, qu'est-ce que l'organisation peut imposer en termes de témoignage et qu'est-ce que l'individu peut faire, mais les deux côtés existent. Si on pense à Solferino, c'était un témoignage complètement individuel, évidemment, aucun témoignage institutionnel, donc l'institution n'existait pas. Pour Médecins Sans Frontières, il y a eu des débats, je dirais, depuis la création, mais beaucoup plus construits, je dirais, au cours des 10 dernières années. Il y a, régulièrement, on se repose la question de qu'est-ce que signifie témoignage à Médecins Sans Frontières. Il y a eu, lors d'un grand débat interne, en 2009, vraiment de dire, dans certaines situations, MSF doit témoigner. Donc il y a vraiment une obligation de témoignage. Alors, on pourra en reparler tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans toutes les situations, je vais juste donner quelques exemples. Par exemple, quand il y a une manipulation délibérée de l'aide humanitaire, on se doit de témoigner. Ça a souvent donné lieu à des débats extrêmement chauds en interne. Par exemple, certains d'entre vous, vu la moyenne d'âge dans la salle, je peux parler du cas du Rwanda, dont les jeunes ne se souviennent parfois même plus, 1934, 1995, où il y a eu un abus complètement évident de l'aide dans les camps de réfugiés rwandais au Zaïre. Et l'OMSF a eu un grand débat interne pour savoir est-ce qu'on doit témoigner et donc se retirer ou est-ce qu'on doit rester. Mais là, MSF pense qu'il y a un devoir de témoignage, mais ce n'est pas toujours facile de décider en interne quel est ce devoir. Bien sûr aussi, pour Médecins Sans Frontières, en tant qu'organisation médicale, dans des situations de crise, d'urgence négligée où les personnes n'ont pas accès aux soins, ça peut aussi être des situations qu'on identifie, qu'on ne peut pas du tout comparer à celle de l'eau, mais par exemple l'épidémie de sida était une tragédie silencieuse dans beaucoup de pays, et il y a une dizaine d'années, Médecins Sans Frontières a vraiment pris cela à bras de corps, enfin plus que 10 années, et a dit nous devons témoigner, c'est une tragédie silencieuse, nous devons engager la communauté internationale à intervenir. Donc des témoignages un peu d'un autre ordre, si on pense à des situations de conflit. Finalement, je peux juste brièvement dire quelles sont les difficultés dans tous ces témoignages. Je le disais déjà, d'estimer l'impact en sachant qu'on veut apporter un bénéfice aux populations, il est hypothétique, il peut donner lieu à beaucoup de débats, et ce n'est évidemment qu'à posteriori qu'on pourra savoir si réellement il y a un impact positif ou pas. Cette difficulté du positionnement institutionnel versus individuel, et puis aussi une autre chose qui, surtout avec la création de la Cour de justice internationale, a donné lieu à beaucoup de débats. Quand on dit témoignage, ça veut dire être témoin, et ça peut aussi dire être témoin dans le sens juridique et à des fins de justice. Les Médecins Sans Frontières se refusent totalement que le témoignage serve à ces buts-là. Nous disons que ce n'est pas le but d'une organisation humanitaire d'être témoin dans le sens juridique. La dernière chose que je voulais évoquer comme difficulté, c'est aussi le dilemme entre un message public, et quand on parle public, on dit souvent grand public, donc relatif, qui doit être relativement simple et clair, mais en général, nous témoignons pour des situations extrêmement complexes, et en fait, où les choses ne sont pas noires et blanches. Parfois, oui, c'est comme ça, dans un cas de dénonciation évident, mais en général, c'est quand même des situations complexes, et c'est très difficile d'amener dans le public ces messages complexes sans que ça vienne des instructions publicateurs et plakatives. Pour terminer, un mot sur l'éthique du témoignage, qui est aussi un grand débat au sein de Médecins Sans Frontières, parce que nous ne sommes plus à l'époque de Solferino où quelqu'un voit quelque chose, écrit un livre qui sera publié un peu plus tard et décrit une situation générale. Nous sommes à l'époque de la communication instantanée avec des images. Nous sommes à l'époque où des organisations humanitaires font du témoignage pour se faire connaître aussi, bien sûr aussi pour faire connaître une situation. Nous avons eu par exemple un cas très difficile lors de la crise du Darfour. Il était évident que dans les camps, il y avait des violences faites aux femmes et des viols systématiques faites aux femmes. Et donc Médecins Sans Frontières a mené toute une étude auprès de ces femmes et ce rapport a finalement été publié. C'était extrêmement débattu si en fait la publication d'un tel rapport, qui était importante pour attirer l'attention sur cette situation dramatique, ne mettait pas en danger les femmes qui elles-mêmes avaient témoigné. L'autre question est que, maintenant c'est devenu extrêmement clair à Médecins Sans Frontières, on n'a pas le droit d'utiliser le témoignage de quelqu'un sans que cette personne ait donné son accord et qu'elle sache exactement dans quel contexte son témoignage va être utilisé. D'abord, bien sûr, de façon confidentielle, enfin, anonymisée, mais même anonymisée, certaines situations, c'est tellement évident qu'il parle que ça ne veut pas dire que la personne est nécessairement protégée. Donc, nous avons maintenant un code d'éthique, en fait, par rapport au témoignage, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup, je ne dirais pas des abus conscients, mais en tout cas beaucoup de situations dans lesquelles il y avait un usage abusif vis-à-vis des personnes qui témoignaient. Et puis, le témoignage, on dit, doit avoir un impact positif, mais l'autre côté aussi, c'est de dire qu'il ne doit pas exposer à des risques les personnes qui témoignent. Je crois que je vais m'arrêter là, c'est déjà beaucoup d'éléments différents, et puis on va reprendre la discussion.
Merci. Et d'accord, ça a été dit à plusieurs reprises ce matin déjà, le CICR porte-secours ne nous dénonce pas, formule sans doute trop lapidaire. Comment vous situez par rapport à elle?
D'abord, je suis très heureux d'être là avec vous. Bonjour, merci de votre présentation. Je trouve que ce thème me paraît particulièrement pertinent. Il est pertinent, évidemment, avec le lien avec Solferino, avec le souvenir à Solferino, bien sûr. Mais il est aussi pertinent parce que je pense qu'on vit actuellement une vraie révolution par rapport au témoignage et qu'il va changer assez profondément la façon dont les organisations humanitaires se positionnent par rapport au témoignage. Mais avant de... ce sera mon point principal. Et j'aimerais éviter qu'on fasse un débat MSF-CICR. C'est un débat intéressant. Doris l'a extrêmement bien posé, Marius aussi. Au fond, aujourd'hui, dans notre pratique du témoignage, c'est vrai que nous distinguons exactement, comme on l'a dit, clairement la dénonciation. C'est vrai qu'on est une organisation qui ne dénonce pas comme ça à la légère. On le fait rarement. On le fait quand il y a des violations de témoignage, quand elles sont répétées, et surtout quand on pense que ça va avoir un impact sur ou influencer ceux qui, en fait, font cette action-là. Donc c'est rare qu'on dénonce. Par contre, nous utilisons le témoignage. Et c'est central à notre action. Et mon premier point, ce que j'aimerais faire qu'on soit clair, il ne faut pas opposer témoignage avec action humanitaire. Le témoignage est au centre de notre action humanitaire. Et ça, on l'a appris dans les 8 ans, et jusqu'à aujourd'hui encore. Et ce que j'aimerais juste dire, le premier enjeu pour nous, et ça c'est vraiment un enjeu important, c'est comment on saisit le témoignage. Parce qu'aujourd'hui, un des enjeux pour pouvoir avoir un témoignage, l'utiliser, parce qu'au fond, le CICR, qu'est-ce qu'il va faire? Le CICR, il travaille, il va construire sa réponse sur la base de ce qu'il voit, mais surtout ce que les gens lui disent, ce que les personnes affectées vont lui dire. Il va devoir comprendre, et un des grands enjeux aujourd'hui qu'on a, c'est d'avoir accès aux gens. D'avoir la possibilité de pouvoir entendre clairement, discuter, voir ce que les gens disent. Je vous prends vraiment l'exemple. J'ai encore une discussion ce matin avec mes collègues en Syrie. Nous avons des collègues du CICR qui travaillent en Syrie. Un des enjeux aujourd'hui, pour nous en Syrie, c'est d'avoir accès, effectivement, aux populations affectées pour pouvoir parler de leurs témoignages, pour pouvoir discuter de ce qui se passe pour eux, pour comprendre leurs enjeux. Donc le témoignage en tant que tel est essentiel pour notre réponse. Le deuxième élément, c'est qu'évidemment, nous agissons sur ce témoignage. Et nous avons des choix. Le choix, il n'est pas juste est-ce que c'est privé ou public. Nous utilisons les témoignages ensuite pour, par exemple, avoir des discussions confidentielles, souvent très difficiles, avec des détenteurs d'autorité, que ce soit dans les prisons, par exemple, ou ailleurs, où effectivement on va utiliser les témoignages avec beaucoup de subtilité pour éviter qu'on mette en danger les gens, mais on va agir avec eux. On utilise les témoignages aussi pour évidemment influencer quand c'est nécessaire, si c'est nécessaire parfois, d'autres États ou d'autres parties pour qu'elles mettent de la pression sur les autorités ou sur les groupes armés dans les États. Donc la question du témoignage, c'est pas juste public ou pas, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est quelque chose qui est vraiment au centre aujourd'hui encore de notre action. Ça a été comme ça et ça continue à l'être. La vraie révolution, la vraie question qui se pose pour nous aujourd'hui, elle est d'un ordre en particulier, c'est effectivement la révolution des nouvelles technologies. Et il y a sans doute aujourd'hui, depuis 5 à 6 ans, il y a plus de différence entre 2005 et 2012 qu'entre Solferino et 2005 dans notre pratique. C'est incroyable. En 6-7 ans, je pense que le changement est plus considérable. Et là alors, aussi bien MSF que le CICR, on est absolument mis, je dirais, face au même problème, au même dilemme. C'est quoi le dilemme? Le dilemme aujourd'hui, c'est que vous avez l'information en temps réel, mais elle n'est pas seulement en temps réel. Aujourd'hui, les personnes affectées communiquent aussi très rapidement. Je vous donne deux exemples très concrets qui sont arrivés récemment. Quand on a annoncé, après les discussions assez difficiles avec l'autorité syrienne, qu'on allait visiter la prison de Damas, j'ai reçu sur mon cellulaire, ainsi que plusieurs personnes au CICR, immédiatement des SMS, ainsi que des photos qui venaient de Syrie, des gens qui nous disaient « c'est faux, c'est pas les bonnes prisons, il faut aller là, voilà la position GPS des 3 prisons que vous y visitez. » Le même jour, sur mon téléphone. Ça, c'est la réalité aujourd'hui auquel on est confronté. Et c'est juste le CICR. Un autre exemple, autre anecdote qui est arrivée lors d'Haïti, c'est une anecdote assez tragique, mais qui est symbolique de la dynamique. Il se trouve que Haïti, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui se sont concentrés sur Port-au-Prince, mais vous savez qu'une bonne partie du pays a été touchée. Et une trentaine de kilomètres autour de Port-au-Prince, il y a une famille. La petite fille était coincée sous les ruines, les débris de la maison. Ils n'ont pas réussi à mobiliser assez d'aide pour sortir la petite fille. Elle était vivante. Cette famille-là a réussi à transmettre l'image de la petite fille de 3 ans et demi, vivante sous les ruines de la maison. Ils ont réussi à la transmettre à un sénateur américain à Washington, sur son téléphone mobile. Je ne sais pas comment ils ont trouvé le numéro. Je ne sais pas comment ça fait. Quoi qu'il en soit, le sénateur a vu cette image-là. Le sénateur a téléphoné, a cherché à téléphoner à la Croix-Rouge américaine. Finalement, il est tombé dans notre bureau, il nous a téléphoné. La bonne nouvelle, c'est que mes collègues à Washington sont rendus compte, un sénateur américain qui téléphone, on prend ça au sérieux. Donc qui sont écoutés. Voilà. On a ensuite, nous, téléphoné avec le sénateur américain aux centrales de commandement américain situées dans ce cas-là à Tampa Bay. La bonne nouvelle aussi, c'est que le central de commandement américain, ils se sont dit Seisser plus sénateur américain, ça doit être sérieux. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont donné des instructions aux militaires à Haïti pour dérouter deux hélicoptères qui ont effectivement été déroutés pour aller vers cette maison-là. Malheureusement, ils sont arrivés trop tard. C'est ça la tragique histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des personnes affectées qui, en fait, amènent le témoignage directement chez les gens pour les influencer, bypassant, comme on dit, coupant finalement le rôle que nous avons souvent, nous, d'intermédiaires. Et au fond, ce que nous, on doit penser aujourd'hui, les humanitaires, et c'est là la grande différence avec Henri Dunant, Henri Dunant, il va, il observe, et il revient et il témoigne ici. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand les gens, au fond, directement vous envoient l'information sans qu'il y ait l'intermédiaire? Donc aujourd'hui, on est dans un monde où le rôle de l'intermédiaire est en train de changer assez profondément. Avec des questions importantes. Alors, les questions que ça pose, des dilemmes, elles sont claires. Premièrement, le témoignage n'est jamais innocent. On a toujours cette idée que le témoignage, évidemment, il vient de la personne de la victime, donc il est juste. Peut-être. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Comment est-ce qu'on vérifie les témoignages? Et là, même dans le monde de l'électronique aujourd'hui, un des enjeux pour nous, c'est d'être capable justement de pouvoir cross-checker ce témoignage-là, d'être sur place. Donc ça remet encore plus de pression sur nous, sur la nécessité d'être sur place. On est bombardé de témoignages aujourd'hui, de films, de choses, et c'est compliqué à gérer. C'est vraiment compliqué à gérer. Et il faut le savoir, vous devez le savoir, un des enjeux, c'est la capacité de vérifier. Le deuxième enjeu, évidemment, c'est d'être capable, et là ça change le rôle de l'humanitaire, qui n'est être plus l'intermédiaire entre la personne affectée et le public. D'ailleurs, on peut se poser la question, qui est le public dans ce cas-là, dans un monde, comment on le fait. Mais il n'est plus l'intermédiaire, mais peut-être que, effectivement, notre rôle, c'est de valider. Et plus de valider le témoignage, mais de valider l'intensité de la crise, par exemple. De valider les besoins humanitaires, de donner un sens à ce qui se passe dans un monde où, finalement, on est noyé par, en direct, par les témoignages. Et on voit très bien, et je finirai juste là-dessus, sur ce qui se passe actuellement, je prends la Syrie, mais je pourrais parler du Mali, je pourrais parler d'Afghanistan. Aujourd'hui, vous n'avez... c'est pas les témoignages qui manquent. Vous allez les trouver. Il y en a des centaines, des milliers, ils sont plus durs les uns que les autres. La difficulté, c'est de donner un sens à ces témoignages. Et d'être capable de donner une réponse par rapport à ça. Et pour nous, je pense qu'on vit vraiment une période où on va devoir se poser la question hors, un peu au-delà simplement de est-ce qu'on dénonce ou pas, comment est-ce qu'on gère cette dynamique-là aussi complexe que ça.
Vous avez beaucoup de questions, en tout cas pour moi. Mais on va d'abord donner la parole à Thérèse Obrecht qui va un peu sortir du thème tout en y amenant finalement peut-être plus fondamentalement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'elle va développer la manière dont aujourd'hui de plus en plus l'information se fait en cas de conflit.
Voilà. Alors, je vais effectivement sortir un peu du cadre humanitaire et parler de l'information tout court. Dans l'optique de Reporters sans frontières, qui est une association internationale qui défend la liberté et le droit d'informer et d'être informé partout dans le monde. Votre droit, entre autres. Donc, l'importance de l'information, elle est fondamentale. Et je crois que personne ne la conteste, en tout cas, dans nos latitudes. Mais de quelle information parlons-nous? Parce qu'il y a un certain paradoxe. Il y a de plus en plus de gens, peut-être vous aussi, qui disent « mais on est mal informé ». Alors que jamais auparavant, il y a eu autant d'informations qu'aujourd'hui. Et j'aimerais un petit peu développer ce paradoxe avec quelques exemples. Prenons les États-Unis. Premier amendement qui garantit la liberté d'expression. La campagne présidentielle, qui va durer encore quelques jours, a donné des résultats intéressants. Les sondés américains disent, dans une écrasante majorité, qu'ils estiment que les informations qu'ils reçoivent sont biaisées, sans doute à juste titre. Les spots télévisés de Romney sont à 90% négatifs et de Obama à 80%. Donc des spots négatifs dont l'unique but est de traîner dans la boue l'adversaire, de dire du mal de l'adversaire. Et par exemple, les débats présidentiels ont généré un nouveau métier collatéral, on peut dire, qui est le métier du fact-checking. Il y a des salles de rédaction entières de gens qui checkent chaque mot, qui contrôlent chaque mot qui est dit pour traquer les mensonges, qui sont sans doute nombreux. Donc voilà ce que c'est l'information dans un pays démocratique et libre. Prenons l'exemple de la Chine, c'est tout à fait différent, c'est un pays autoritaire, on va dire un état policier. où l'Internet est strictement surveillé, contrôlé, filtré, où il y a des dizaines de milliers de policiers du net traquent les dissidents, et où des artistes, Ai Weiwei, ça vous dit quelque chose sans doute, c'est un artiste politique, un activiste qui entre autres a fait le travail du gouvernement, il a établi pour le Sichuan après le séisme une liste d'enfants tués, morts, ce que le gouvernement n'a pas fait, et il a payé très cher, il était en prison quelques mois, donc on l'a intimidé, menacé. Mais lui, il dit, la Chine dépense la moitié de son énergie pour empêcher les gens d'obtenir des informations, et l'autre moitié de son énergie pour mettre en prison ceux qui ont accès aux informations et qui les passent plus loin. Donc, c'est l'exemple contraire d'un pays, mais où l'information est aussi primordiale. Et on sent les dirigeants chinois très très nerveux depuis le printemps arabe, parce que justement, avec les nouvelles technologies, tout semble devenir possible. Et ce qui est intéressant aussi en Chine, donc on traque les dissidents, mais les microblogs sont les critères chinois. Il y a 600 millions de Chinois au moins qui sont raccordés à Internet. Et les microblogs permettent aussi au public, et d'ailleurs le gouvernement laisse cette soupape apparemment à la population, permettent de traquer les ripos du parti communiste. Il y a de plus en plus de gens qui sont confondus et qui vont en prison ou qui sont condamnés pour corruption. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Troisième exemple, j'aimerais juste revenir sur la Syrie parce que c'est le point le plus chaud, le plus difficile en ce moment. Reporters sans frontières a sorti il y a deux jours un communiqué très alarmiste sur l'état de l'information en Syrie. Il y a beaucoup de journalistes, au moins une quinzaine qui ont été tués, et 40 environ net citoyens. On les appelle les netizens, les net citizens, c'est donc des gens, des civils qui transmettent de l'information avec les téléphones mobiles, avec Internet, avec ordinateur, etc. parce qu'il n'y a plus de journalistes qui ont été tués, arrêtés ou qui sont partis. Donc ça, en Syrie, nous fournissons par exemple des téléphones mobiles, des Natel, des téléphones satellites, nous essayons d'exfiltrer des journalistes, nous essayons de les établir à l'étranger, tout ça. Mais tout ça est évidemment très très difficile, et comme a dit Yves, le plus difficile de ces informations qui arrivent, c'est la vérification. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, et tout ça s'est fait avec beaucoup de soin à notre siège à Paris. Mais ce matin aussi, j'ai trouvé une vidéo qui circule sur Internet, donc qui n'est pas contestée, donc la véracité semble absolument juste, où un groupe de combattants de l'armée syrienne libre a exécuté des soldats loyaux à un checkpoint, qui les ont fait prisonniers, les ont exécutés, c'est 2 minutes de vidéo, donc je ne sais pas si juridiquement c'est une preuve, mais en tout cas on voit ce qui se passe, c'est des crimes de guerre, donc voilà de nouveau, je pense, pourquoi les gens pensent, trouve extrêmement difficile de dire je suis informé parce que ça vient de tous les côtés et dans des sens totalement contraires. Donc c'est extrêmement difficile de se faire une opinion. Donc Internet a cet effet de brouillage, de cacophonie. Trop d'informations tue l'information et c'est vrai qu'on peut considérer Internet, enfin tout ce cyberespace comme une espèce d'immense cimetière où les nouvelles se bousculent, sont vite dépassées, tombent dans l'oubli, mais sont indélébiles, ineffaçables. Elles existent pour toujours. Je sais, il paraît que les informaticiens cherchent une gomme électronique pour gommer, ça viendra sans doute. Donc, les nouvelles technologies, IT, Information Technology, ce sont ni bien ni mal, c'est juste un outil révolutionnaire qu'on peut comparer sans doute à l'invention de l'imprimerie ou de l'écriture. Ça existe depuis 20 ans, comme vous savez, ça a été inventé à Genève. Ce qu'on sait avec certitude, Internet n'est pas un espace démocratique aujourd'hui, il n'est pas accessible à tout le monde, il n'y a pas de règles, et d'ailleurs qui fixerait les règles, et quelles seraient ces règles? On sait que les enjeux sont colossaux, aussi bien financiers, politiques, économiques, sociaux. On sait surtout que c'est un outil que nous ne maîtrisons pas, et nous ne savons pas où ça va vous mener. Et il y a aussi déjà des effets pervers qu'on croit tous les jours, juste quelques-uns, c'est le phone hacking, vous avez peut-être lu de l'affaire Murdoch, qui a ébranlé la Grande-Bretagne, donc où vraiment, je n'appelle pas ça du journalisme, mais en tout cas c'est de l'information, où on fait du hacking sur les téléphones, et on produit quelque chose de totalement faux, mensonger. Il y a le Fox News qui est la succursale américaine, donc il y a un brain room, c'est un bunker apparemment, qui est destiné au phone hacking, donc tout ça jette évidemment un discrédit énorme, non seulement sur le journalisme, mais sur l'information tout court. Il y a dans nos pays démocratiques aussi la tentation toujours présente de limiter, de contrôler Internet. On l'a vu en France avec la loi Hadopi, on l'a vu en Grande-Bretagne après les émeutes. Le chancelier Cameron a tout de suite dit que dès que quelque chose comme ça commence, on va fermer Internet. On le voit aussi que c'est la difficulté de protéger les sources, et d'ailleurs nous, RSF, nous avons pris maintenant de l'argent de la Confédération parce que nous faisons des ateliers, c'est le premier atelier qui aura lieu dans la région, au Caire, dans un mois, pour apprendre à des blogueurs et à des journalistes à travailler dans un environnement sûr, sécurisé, de connaître les outils technologiques pour se protéger, enfin le téléphone, toutes les communications électroniques, etc. Et c'est évident que dans ces pays-là, c'est encore plus important que chez nous. Voilà.
Merci. J'aimerais demander à quelqu'un ici parmi les intervenants si quelqu'un souhaite intervenir maintenant sur ce qu'a dit un de leurs collègues.
Juste, il y a un point que Doris Schoeffer a amené, qui est un autre point important, un des dilemmes auxquels on se confrontait au-delà de la révolution dont on parlait avant, c'est que le témoignage revient aussi une autre connotation. Je pense qu'il y a encore quelques années, le témoignage était en général perçu comme quelque chose de positif. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a quand même dans beaucoup de pays, le témoignage, y compris et surtout les humanitaires, il est perçu comme un témoignage qui est d'abord un témoignage à charge, qui va servir en particulier à la justice. Et c'est vrai qu'on a un enjeu par rapport à ça aujourd'hui. On l'a vu, le Soudan, par exemple, pour être clair, a pris des décisions qui ne sont pas nouvelles, mais qui se sont simplement renforcées. Aujourd'hui, le Soudan a clairement décidé de soudaniser totalement la réponse humanitaire. Ça veut dire qu'il est exclu pour un humanitaire international aujourd'hui d'avoir accès à des victimes soudanaises directement. Vous pouvez le faire que à travers des partenaires soudanais. Hein. Et la lecture qu'ils le font est extrêmement clairement liée à la Cour pénale internationale et au fait qu'il y a eu des choix stratégiques. Des appels en tout cas à ce que les NGO témoignent très directement au cours, en tout cas donnent de l'information qui peut servir. Et je ne dis pas que c'est mal ou bien, je pense qu'on est tous en faveur de la Cour pénale internationale, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que le témoignage des humanitaires est parfois perçu, et comme les gens ne distinguent pas automatiquement une organisation avec une autre, est parfois perçu comme un témoignage à charge, ça a posé alors, et ça pose aujourd'hui des très grands soucis dans beaucoup de pays. Qui aujourd'hui n'ont pas du tout l'intention de laisser les témoignages humanitaires pouvoir se développer.
Avant de passer la parole à ça, j'aimerais juste encore moi soulever une question parce que je trouve moi que ça a été un tout petit peu absent des débats ici, c'est l'opinion publique ici. Et votre rôle à vous, humanitaire, de témoigner face à l'opinion publique qui était un peu. Pour moi, au départ de la question, c'est la question dénoncer ou agir, c'est-à-dire pour dérouler les choses simplement. Et Madame Schoeffer, je vais vous poser une question bateau, mais je vous la pose parce qu'elle est dans le public. Avec la concurrence entre les humanitaires actuellement, on voit quoi quelle catastrophe toute cette opération par le public, les organisations qui se précipitent en Haïti ou ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas quand même aussi un enjeu du témoignage, voire de la dénonciation auprès de l'opinion ici, pour les organisations humanitaires, afin de se situer, de se montrer, à côté des fonds d'exister. Est-ce que ce n'est pas aussi une des parties du problème ?
C'est certain, je sais que ça marche.
Oui, ça marche.
Que bien sûr, toutes les organisations, surtout celles qui sont dépendantes de l'aide publique, ce qui n'est pas tout à fait le cas du CICR, sont dépendantes d'être connues et reconnues, vu que sinon on ne va pas donner l'argent à quelqu'un. Ceci dit, Médecins sans frontières a quand même vécu un contre-exemple absolument frappant, je trouvais. Peut-être que vous vous souvenez qu'au moment du tsunami en Asie du Sud-Est, Médecins sans frontières, très vite, après à peu près 10 jours, a dit « nous ne voulons plus recevoir d'argent ». Et ça a été extrêmement mal perçu par les autres ONG qui ont dit « mais là, vous nous faites un sale coup, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous ne voulez plus d'argent, mais nous, on ne peut pas dire ça, etc. » Médecins sans frontières était extrêmement clair qu'il ne voulait plus d'argent, parce qu'on en avait reçu énormément dans les premiers jours, et que l'aide médicale n'était pas nécessaire d'autres besoins après le tsunami. Les gens étaient soignement ou avaient survécu, et au fond, il n'y avait pas de maladie particulière après le tsunami, c'était plutôt les gens avaient besoin de reconstruire leur maison, l'eau, sanitation, etc. Donc ce n'était pas le rôle de Médecins sans frontières. À tel point que Médecins sans frontières achetaient des bateaux aux pêcheurs en Indonésie. Donc je veux dire, ce n'était vraiment pas le rôle de Médecins sans frontières. Mais ça a été perçu comme un coup de pub de la part de Médecins sans frontières, d'annoncer qu'on ne voulait plus d'argent en disant, enfin, ça, c'est tout pour votre gloire. Et d'ailleurs, en fait, ça a donné beaucoup de visibilité à Médecins sans frontières à un moment, alors que notre souci était, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces millions qui arrivent? On ne pourra pas les utiliser pour les victimes du tsunami, et la règle est qu'on utilise l'argent qui est donné pour une certaine cause, pour cette cause. Donc voilà, je veux dire, ça peut vraiment avoir, il peut y avoir des effets assez pervers de cette volonté de se montrer. Je voulais juste, ça me permettait juste de dire encore une chose sur le témoignage par l'opinion publique. Un autre exemple, alors de nouveau, qui est très particulier à Médecins sans frontières et qui n'a rien à voir avec un conflit armé, parce qu'évidemment, Solferino, CICR, on se positionne là plutôt dans le témoignage en cas de conflit armé. Mais bien sûr, Médecins sans frontières fait beaucoup de témoignages en termes d'absence de soins médicaux ou difficulté d'accès à des soins médicaux. Et par exemple, le témoignage et le raising awareness in the public, donc vraiment d'alerter le public sur l'abus de l'industrie pharmaceutique en Afrique du Sud quand il s'agissait de pouvoir importer des médicaments non patentés contre le sida, l'industrie pharmaceutique qui faisait qui traduisait en justice le gouvernement sud-africain pour avoir importé ces médicaments, alors qu'ils avaient le droit au niveau international de le faire, c'est grâce à Médecins sans frontières et tout le raising awareness qui a été fait en Afrique du Sud et dans le monde entier, que finalement l'industrie pharmaceutique en question, dont je tirais le nom, mais qui est suisse, a retiré son. A retiré sa plainte. Et que ça a sauvé la vie à des milliers de personnes qui avaient accès à ce moment-là aux médicaments pas chers. Donc je veux dire, ce n'est pas que conflit armé et dénonciation. Dans le cas d'un conflit armé, on dit qu'il y a une violation grave des droits de l'homme, mais pour Médecins sans frontières, c'est une dénonciation d'autre chose. Bien sûr, au niveau mondial, maintenant, il y a des enjeux tellement énormes dans la globalisation qui touchent très clairement tout ce qui est aussi soins pour les patients. Et que là, ça a un autre rôle encore.
J'aimerais rebondir aussi auprès d'un accord, aussi toujours par rapport à cette question de l'opinion publique. Je prends l'exemple de la Syrie, où depuis le début du conflit, on ne sait pas trop quand c'est venu, mais enfin, on assiste à cette situation où on est informé d'une part par un régime du Conseil dictatorial, d'autre part par des opposants dont on nous dit que c'est une officine à Londres, etc. On ne sait pas trop qui c'est, ça a peut-être un peu évolué depuis. Où les journalistes ont très difficilement accès quand ils ont accès, est-ce que là, vous estimez-vous que le CICR, par exemple, a un rôle dans un contexte pareil d'éclairer l'opinion ou pas du tout? Parce que j'ajoute à ça, évidemment, ce qu'a dit Thérèse, toutes les informations qui nous arrivent par ailleurs, par Internet, etc., qui sont trop d'informations et auxquelles on n'arrive pas à donner de sens.
Ça pose une somme de questions. D'abord, par rapport à la grande question que vous posez, dénoncer ou agir, je ne sais pas si on peut poser cette tension-là. Si la tension se pose comme ça, pour nous, c'est clair, c'est agir. C'est clair. La dénonciation, elle peut faire partie, mais elle fait partie de notre action, dans une logique. Donc, dans une logique d'action, et ça met quand même. D'ailleurs, c'est intéressant, si vous regardez MSF ou le CICR aujourd'hui, on a une pratique assez commune, finalement. Pourquoi? C'est pas parce qu'on a besoin quelques principes différents, des principes aussi communs, mais on a une pratique commune. Pourquoi? Parce qu'on est sur le terrain. Parce que quand vous êtes proche des gens, quand vous travaillez, quand vous êtes en dialogue avec toutes les parties, quand vous discutez en Afghanistan avec les talibans et le gouvernement afghan, avec les forces internationales, ben la première chose avant de dénoncer, c'est d'agir, c'est d'avoir de l'information, c'est d'être proche, c'est d'utiliser cette information-là pour dialoguer en confidentialité, et éventuellement ensuite, après, vous allez dénoncer. Mais vous réfléchissez toujours pourquoi vous faites, quel est votre objectif, toujours, et on le fait rarement, hein, soyons clairs. Par contre, maintenant, si vous prenez l'exemple de la Syrie, il faut aussi reconnaître deux choses. Il y a beaucoup de contextes où, et nous on fait très attention avec ça, de ne pas surenchérir. Sur l'exemple de la Syrie, je n'ai pas beaucoup plus d'informations que vous, très ouvertement. J'ai de l'information spécifique par rapport à des enjeux spécifiques que nous maîtrisons. Et là, vous allez entendre le CICR. Si vous regardez ces six derniers mois, vous avez entendu le CICR sur la Syrie, à deux moments précis. Un, parce qu'on a effectivement utilisé l'opinion publique, mais pas mondiale, mettons ça en particulier plutôt de la région, hein, pour mettre la pression, parce qu'on voulait avoir accès à une ville, c'était Homs, hein, et en fait, nos véhicules étaient devant, et on n'arrivait simplement pas à avoir accès. Et on a utilisé ça dans une discussion fluide qu'on avait avec le gouvernement, mais on voulait aussi mettre de la pression sur l'opposition, et là, la discussion était beaucoup plus compliquée avec l'opposition, parce qu'elle est très diverse, très complexe, et là, on a utilisé l'espace public pour effectivement tous les jours dire « on est devant Homs, avec nos véhicules, on va rentrer, on sait pourquoi on est là, vous devez vous respecter ». On a utilisé ça en février,
près de vous. Là, ça aura une influence très concrète. Et vous allez voir, ponctuellement, on le fait comme ça et ça arrive. L'autre, c'est le risque qui est mentionné. On a une très très grande inquiétude par rapport à la Syrie, mais j'aimerais dire pas que par rapport à la Syrie. Donc aujourd'hui, pas seulement dans le contexte, je pense par exemple à Tarek, je pense à l'Afghanistan, on l'a vu aussi à l'époque au Sri Lanka et d'autres, où on voit aujourd'hui que les installations sanitaires, que le personnel médical en particulier, sans parler évidemment des patients, sont systématiquement ciblés. Pas par accident, mais ils sont systématiquement ciblés, parce que c'est la meilleure façon de mettre la pression. Vous voulez faire la répression, vous arrêtez tous les docteurs. Aujourd'hui, en Syrie, dans certaines régions, l'endroit, le dernier endroit où vous avez un blessé, c'est dans un hôpital. Le dernier, pas le premier. Et ça, c'est dramatique. Là, on a un enjeu majeur. Alors, pour reprendre le témoignage, là, on va utiliser au fond l'information, pas pour témoigner spécifiquement et dénoncer, mais pour effectivement créer une dynamique autour d'une question où là, on va devoir avoir effectivement l'ensemble de l'opinion publique qui vont petit à petit se rendre compte que c'est devenu un enjeu. Pourquoi on le fait? Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, quand les médias annonce qu'un hôpital a été bombardé. Quand il parle d'un médecin qui a été tué ou arrêté, ça a l'air de choquer plus personne. Si c'est vrai, dans ce cas-là, ben effectivement, là, on a un devoir, nous, de remettre cette question-là sur la table et d'illustrer cette question-là, de la travailler, de prendre le temps nécessaire pour le faire. Et puis le dernier point, et je ferai très attention à ça, on est, nous, très conscients au CICR, je crois que MSF l'est aussi d'autres humanitaires, que, évidemment, votre voix porte uniquement si vous avez la légitimité et la crédibilité pour le faire. La légitimité, elle vient du fait que vous êtes là, vous êtes sur place, vous êtes proche, vous prenez des risques aussi avec les gens. C'est important de le mentionner. Et deux, évidemment, que vous n'utilisez pas votre voix à tort et à travers tout le temps. Donc on fait des choix. On choisit. Et on choisit aussi parfois le silence. Et le silence, c'est un très fort acte de communication aussi, quand on choisit. Et de savoir pourquoi on le fait. Pour pouvoir donner aussi plus de force au moment où on s'exprime.
Comme l'intervention de Thérèse Aubrette sur cette question du public, et après, on passera à la salle.
Oui, j'aimerais juste continuer sur le silence, c'est absolument vrai, parce que l'opinion publique, donc vous, j'ai l'impression que cette pauvre opinion publique, elle est dans un état permanent entre excitation et overdose. Donc il y a un choc qui vient, tout le monde parle de ça, tout le monde, tu as vu les images d'ailleurs. Une information sans image, ce n'est pas une information si ça passe par la télévision, ou disons pour faire moderne, si ça passe pas sur YouTube. Donc si vous ne l'avez pas vu, ça n'existe pas. Ça, c'est déjà un premier problème. Et je pense que, là encore une fois, je veux dire, c'est extrêmement difficile pour les gens de s'engager pour quelque chose, parce que c'est, le lendemain, c'est autre chose. Donc on reproche souvent aux médias de, je ne sais pas, de ne pas faire le travail parce que l'opinion ne sait plus et tout, mais c'est tout un ensemble, c'est pas seulement les médias, c'est vraiment cette évolution technologique qu'on ne maîtrise pas et qui fait que je ne sais pas ce que c'est. Mais, franchement.
Bon, on va voir, maintenant s'exprimer. Qui souhaite intervenir, soit pour une question, une remarque, une dénonciation ici. Oui.
Nous, enfin, le citoyen moyen, il a besoin d'un médiateur entre les organisations et lui. Et ce médiateur, c'est la presse. Et en première ligne, il y a la télévision. Et alors, il y a deux choses qui sont tout à fait frappantes. Puis que là, j'ai l'occasion de consommer un peu plus de télévision et d'informations. Il y a deux choses qui font basculer le domaine d'information vers quelque chose dont on n'a pas parlé, du rationnel vers l'émotionnel. Il y a l'accumulation des informations qui vont toutes dans le même sens, et il y a aussi la présentation qu'on nous fait de ces informations. Alors là, ma remarque est bien parce que depuis quelques semaines, je suis un tout petit peu agacé par le téléjournal, la télévision courante que je suis depuis des années, parce qu'il semble que les journalistes et besoin de répéter deux ou trois fois dans le même journal d'une demi-heure la même information. Or, la répétition d'une information, c'est quelque chose qui stresse, entre guillemets, hein, le lecteur, et qui crée une émotion. Hein. Et alors, au fond, la question que je me pose, c'est est-ce que les médias pourraient faire quelque chose pour que ceux qui dépendent d'eux pour avoir les informations puissent quelquefois retourner dans le rationnel, alors que cette pléthore d'informations les fait toujours vivre dans l'émotionnel. Alors, comme enseignant, on connaît aussi ça, parce que nous, on a eu des sujets qui nous ont été imposés, je prends le génocide. Bon. Le génocide, c'est clair, c'est un truc où vous ne pouvez pas enseigner autrement que émotionnellement, parce que dès que vous donnez des informations répétitives, on bascule dans l'émotionnel et on peut le traiter comme ça. Alors, ma question, elle s'adresse aux journalistes, là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la presse peut faire pour que, au fond, l'opinion publique soit correctement informée?
Moi, je me propose de ne pas répondre à cette question maintenant. Je crois que je la laisse comme un appel, comme un constat qu'on fait d'ailleurs souvent aussi. Si ce n'est pour dire qu'au moins, avec cette manière de faire, le pauvre M. Monico, qui dans son temps cherchera des traces, là au moins il est trop rare.
Je ne suis pas très sûr que dans son temps les données numériques survivront. Et le gros problème dans les archivistes, c'est effectivement
le... Non, je trouve ça vraiment que ça nécessite tout un autre débat qui, à mon avis, nous mène loin. Et je n'aimerais pas rester sur ce débat à 4 heures. J'aimerais vraiment que les gens puissent s'exprimer un peu plus. On y reviendra si jamais. D'accord. Oui, monsieur.
Merci, bonjour, Francis Amard. J'étais assez intéressé par la remarque de monsieur Dacord sur l'évolution récente des moyens de communication et des exemples qu'il nous a donnés de ces retombées, et j'aimerais que ceux qui représentent ici l'humanitaire nous disent comment les humanitaires peuvent apprendre à mieux gérer l'information ou à s'adapter par une nouvelle gestion de l'information. J'aimerais qu'on regarde un peu vers l'avenir après avoir fait le constat. Merci.
Bon, d'abord, je pense que ce n'est pas aux humanitaires de gérer toute l'information. Hein. Je pense que là, on est d'accord avec Yves, ce n'est pas notre rôle. Hein. Nous ne sommes pas des informateurs, des journalistes, des médiateurs, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de travailler sur le terrain. C'est exactement ce qu'il disait, c'est les opérations. Après, pourquoi est-ce qu'on veut transmettre de l'information? Je pense que là, c'est extrêmement important, et c'est sorti à un certain moment. Il y a ces nouvelles technologies, cette abondance d'informations, il faut les vérifier, etc. Et je pense que justement, le rôle d'une organisation humanitaire sérieuse à l'heure actuelle, c'est vérifier, établir des faits à son niveau, ça veut dire on voit, on compte les morts, on compte les blessés, c'est des choses qu'on sait faire, on sait voir quel type de blessure les gens ont, est-ce que c'est à la machette, est-ce que c'est des coups de tir par derrière, c'est des choses qu'on sait voir, qu'on sait établir des faits, et avec ces faits, on peut les analyser, et avec cette analyse, on peut vous donner l'information. Et je pense que c'est la crédibilité d'une organisation qui permettra après de dire, ah bah tiens, Médecins Sans Frontières dit que, le CICR dit que, donc on sait que c'est une information qui est le moins truquée possible, le moins visée possible, et qui a été vérifiée. Il y a d'autres organisations, bien sûr, il y a Amnesty International, il y a Human Rights Watch, là je parle des organisations humanitaires, qui donnent ce type d'informations. Notre but a priori, c'est pas donner l'information, notre but a priori, c'est pouvoir aider les gens. Et je crois que ça, c'est vraiment important de penser que si on donne de l'information, c'est pour pouvoir mieux agir. Et ça, bien sûr, ça peut se décliner de quatre façons différentes. Mais il ne faut pas penser que c'est notre rôle d'être pourvoyeur de l'information. Ce n'est pas notre rôle. Par contre, d'être pourvoyeur de l'information correcte, analytique, et vous parliez de rationnel, d'émotionnel, si on transmet de l'information, je pense que ce qu'on essaie quand même, c'est de provoquer quelque chose qui est de l'ordre de l'indignation, qui est de l'ordre de l'interrogation. Alors je ne sais pas si ça c'est du rationnel ou de l'émotionnel, mais c'est de pouvoir donner des faits, mais à partir de là, de provoquer une réaction. C'est quand même le but, en général, de l'information qu'on essaie de donner.
Ça mettrait là dans long de bas, mais peut-être juste 4 points rapidement. Le premier, c'est en fait, on l'a dit, gérer l'information pour agir. Donc c'est pour décliner notre personnel, nos collaborateurs, nos délégués, pour qu'ils soient à même de pouvoir être en interaction par rapport à ça. La réalité aujourd'hui, ben, tu sais très bien Francis, c'est que dans la plupart des endroits où on travaille, y compris par exemple en Somalie ou en Afghanistan, les gens ont des téléphones mobiles, ils se connectent entre eux, donc nous, on doit avoir une pratique nous-mêmes qui nous permet déjà de pouvoir intégrer cette dimension-là. Ça paraît très simple, mais c'est le premier élément. Le deuxième, c'est vraiment, et ça c'est la grande question, au CICR, on est habitué à travailler avec des sources de première main. C'est là-dessus qu'on fait. Nous ne savons pas travailler, et peut-être à tort ou à raison, avec des sources de seconde main. C'est-à-dire que nous, on est habitués, on cherche, au fond, la source directe d'être près des gens, parce qu'on a beaucoup d'informations évidemment autour de ça, et c'est très important, parce que ça crée le lien aussi. Je pense que malheureusement, c'est plus suffisant. Donc comme organisation, on doit maintenir, c'est essentiel pour nous, l'ambition d'avoir des sources de première main, d'être proche, de prendre aussi les mesures nécessaires pour être proche, mais on doit de plus en plus savoir travailler aussi avec des sources de seconde main. C'est clair aujourd'hui, je pense en particulier aux photos, aux vidéos qu'on reçoit, etc., avec l'enjeu alors d'être capable de pouvoir les analyser, faire en sorte qu'elles soient bonnes. Et puis le troisième, je me rends compte de plus en plus que quand nous, et je pense que vous savez au CICR, on fait beaucoup de démarches, on prend des témoignages, ensuite on les met ensemble, on travaille, ensuite on fait des démarches auprès des gouvernements ou des groupes armés par exemple, de gens qui ont l'influence, et on utilise en fait des textes, hein, on appuie nos démarches avec de l'information pour impacter évidemment ces gouvernements-là. On se rend compte qu'on est confronté à un changement de génération aujourd'hui. Aujourd'hui, si je donne un texte de 20 pages simplement, 100 cartes par exemple, l'impact est beaucoup moins grand. Donc même dans nos démarches, au fond, aujourd'hui de protection, on doit mettre en scène, différemment sans doute, avec mettre en scène positivement, hein, l'information. Et c'est très intéressant de voir, quand on utilise des cartes, par exemple, et je pense qu'une des choses que vous allez avoir dans les témoignages dans les années qui viennent dans le milieu militaire, c'est, on voit déjà, mais ça va être encore beaucoup plus fort, c'est vraiment l'arrivée des cartes qui va être l'information de base partout, de plus en plus. Et au fond, les gens sont plus prêts, hein, quand je discute avec les militaires aujourd'hui, de quels états ce soit, ben, ils sont plus prêts à discuter sur les rapports de 20 pages, ils veulent parler sur un rapport de 1 ou 2 pages. Ce qui nous pose d'autres enjeux. Voilà.
J'aimerais juste enchaîner sur la mise en scène, parce que c'est vraiment ça, quoi. L'information, de plus en plus aujourd'hui, c'est une mise en scène. Pour répondre à vous, monsieur, parce que nous avons aussi travaillé au téléjournal, il y a un moyen très simple, arrêtez de regarder le téléjournal. Et c'est pendant quelques temps, et concentrez-vous sur d'autres informations, parce que la télévision est un média totalement émotionnel. Totalement. Dans une demi-heure, vous faites le tour du monde, vous savez l'utiliser. On vous titille et tout ça. Mais l'hiérarchisation des informations dans n'importe quel téléjournal, je dirais même à la BBC, c'est pas ce qui est le plus important, mais qu'est-ce qui va intéresser pour que les gens restent jusqu'à la pub, je dirais que c'est ça. Il faut les garder devant l'écran et tout ça pour la pub. Après, non mais c'est très cynique, mais c'est un peu comme ça. Et je pense de tous les téléjournaux du monde, le premier principe, c'est d'être les premiers. On peut toujours démentir après, c'est vraiment triste, l'évolution est malheureusement comme ça.
Si je peux me permettre d'ajouter un mot en sortant un tout petit peu de mon rôle, ceux qui doivent vous informer d'abord, en principe, c'est les médias. Et là où je rejoins le constat et aussi ce que vient de dire Thérèse, il y a un gros problème de crédibilité, non pas seulement des humanitaires, mais des médias aujourd'hui et de la qualité de l'information. Pour des raisons économiques notamment, vous le savez bien, et moi je prétends que l'enjeu, la qualité des médias aujourd'hui avec l'Internet qui afflue avec son information non vérifiée, partiale, non indépendante, avec les médias qui face à ça sont dans une crise économique, le modèle économique ne tient plus, il y a vraiment là une question centrale qui se pose et à laquelle le public, à mon sens, devrait être plus attentif. Parce que pour le public, malheureusement, grâce à Internet, grâce au gratuit et grâce à autre chose, l'information c'est devenu gratuit. C'est devenu quelque chose qui est là, et il n'y a pas suffisamment de conscience que ça a un vrai coût, que c'est un vrai métier, qu'il y a une vraie déontologie et qu'il y a besoin de moyens. Donc je crois que je peux aussi vous renvoyer la main. Et je me retourne vers vous. Oui, au fond.
Merci. J'ai une question, j'aimerais peut-être revenir sur un commentaire de M. Lacord sur ce que devient l'information et le témoignage après, et particulièrement l'enjeu de la nouvelle utilisation possible juridique avec la CDI, etc. Ce que peut devenir l'information qu'on diffuse ou qu'on ne diffuse pas à la limite, hein, l'un ou l'autre. Est-ce que ce n'est pas là un enjeu qui devient terriblement important? Je veux dire, tout ce qu'on voit, par exemple, des images que Mme Aubrecht parlait, celle de ce matin de Syrie, deviennent un témoignage potentiel de crime de guerre, etc., qui ne va pas s'arrêter à simplement une image horrible à la télévision. Ça devient des pièces à conviction, en quelque sorte. Donc comment gérer ce nouvel enjeu qui dépasse en fait l'information et qui va au niveau du témoignage juridique?
Je pense que Doris aussi a un mot à dire là-dessus. C'est un enjeu très important et je n'ai pas automatiquement de réponse à toutes ces questions. questions, mais si vous permettez, peut-être deux points. Le premier qui concerne mon organisation en particulier, évidemment, notre travail à nous, ce que nous, on doit garantir, c'est que dans cet environnement-là, on continue à avoir accès aux personnes affectées, et que, évidemment, cet accès-là, vous pouvez le savoir, il se négocie. Nous sommes confrontés à très peu de conflits internationaux qui, à lui, nous permettraient de l'obligation de présence. La plupart des conflits, c'est des conflits internes, où finalement, la présence du CICR peut être proposée, mais les gouvernements, mais aussi les groupes armés, peuvent décider oui ou non. Donc on doit faire preuve, finalement, d'une légitimité et d'une pertinence qui fasse qu'on soit là. Juste le premier élément. Et c'est clair que pour nous, l'enjeu, et ça se construit quand même sur un minimum de confiance. Et c'est clair que quand je vais voir, quand mes collègues vont voir un chef de groupe armé, par exemple, au Darfour, et que, au fond, ce chef de groupe pense qu'il y a une chance sur deux que, dans la discussion, il est enregistré avec le téléphone mobile et qu'ensuite ça va être transféré ailleurs, c'est foutu. Hein, c'est clair. C'est foutu. Là, vous avez cassé la confiance définitive. Et donc là, on a un enjeu, nous, en termes d'organisation, évidemment, d'explication, de donner aussi des signes très clairs, donc le téléphone portable, on les porte, on les pose, par exemple, avant. On a toute une négociation qu'on a eu aussi de la Cour pénale internationale pour effectivement faire en sorte qu'on ne doive pas, enfin nos collègues sont, mes collègues sont préservés, ils ne sont pas dans l'obligation de témoigner. Hein, et ça c'est un élément. Donc on a réussi à faire ça, mais c'est un combat complexe, ce qui n'est pas du tout évident, et ça dépend beaucoup des procureurs. Parce qu'il n'y a pas que les enjeux maintenant au niveau de la Cour pénale internationale, ce que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des enjeux évidemment nationaux. On a eu des gros problèmes en Angleterre très récemment, par exemple. En fait, logiquement, il y a des gens. À présent, c'était un certain nombre d'Irakiens qui ont été torturés, en tout cas c'est ce qu'ils disaient, par des soldats anglais. Ils ont un avocat, ils vont dans les cours anglaises pour demander des dommages d'intérêt. Ben, évidemment, l'avocat, qu'est-ce qu'il dit? Il dit où est l'information qui nous garantit ça? Ah ben tiens, il y a un endroit simple, c'est le CICR, eux ils sont là, ils doivent avoir des documents. Il y a beaucoup de pression, et pas seulement sur nous, parce qu'à la limite, nous on dit non, désolé, c'est pas accessible, c'est confidentiel. Mais après, l'avocat demande au gouvernement de soumettre les documents qu'il a reçus du CICR. Là, c'est bien compliqué, hein, dans la dynamique, dans l'environnement. Et ça m'amène à un autre enjeu qu'on a eu très récemment au sein même du CICR, pour être très ouvert avec vous, qui est, nous, on vit dans cette dynamique-là, un enjeu où, par exemple, nos anciens collègues du CICR qui écrivent des livres, ça arrive de temps en temps, ce qu'il y a 10 ans, au fond, franchement, était quelque chose que j'aurais pensé, que je considère très, très positif. Mais évidemment, quand ils commencent à faire écrire des livres avec des témoignages assez précis, bah évidemment, comme tout aujourd'hui sur Google, tout se voit, bah les avocats, on a vraiment vécu ça en Angleterre, disant, mais attendez, vous, c'est service confidentiel, et vos collègues, ils écrivent des livres avec témoignages précis. Et donc là, nous, on est dans une situation qui, je vais vous donner un petit exemple, qui devient très compliquée. Ça, c'est pour le CICR. On ne pense pas, on y arrive, on essaye, mais c'est vraiment avec un dilemme. Et maintenant, juste deuxième niveau, moi, mon grand souci avec la Cour pénale internationale, ça, c'est maintenant un avis personnel. C'est qu'évidemment, il faut qu'elle continue, qu'elle fasse un travail très important. Mais il faut qu'elle fasse extrêmement attention. Dans le monde polarisé dans lequel on est aujourd'hui, la perception que systématiquement les procureurs s'attaquent que à une partie du monde et jamais à l'autre pose d'énormes problèmes. Et ça renforce évidemment le sentiment que la justice internationale est au service des puissances. Et ça, c'est tragique. Moi, je l'entends en permanence. Et là, vraiment, j'ai un enjeu. Alors, je reviens, je prends ma casquette de nouveau. C'est évidemment si la Cour pénale internationale réussissait aussi de temps en temps à s'intéresser à l'autre partie du monde, si on voyait comme ça, évidemment ça ferait aussi moins de pression sur les humanitaires. Là il y a un enjeu qui est clair. La perception est extrêmement claire. Et là je pense que, j'espère, je sais que c'est un dilemme, mais j'espère que la Cour pénale internationale pourra, et surtout ses procureurs, agir différemment.
Ouais, alors très très brièvement, parce que je souscris complètement à ce qu'il vient de dire, juste pour dire pour Médecins sans frontières, c'est un peu différent, parce que nous n'avons pas de code de confidentialité, bien sûr, la confidentialité médicale, mais pas la confidentialité qu'on peut l'avoir le CICR dans son mandat, qui est très différent à Médecins sans frontières. Par contre, au moment de la constitution de la Cour pénale internationale, nous avons une discussion au Conseil international de Médecins sans frontières, qui est l'organe suprême, parce que se posait en effet la question des témoignages de témoins visuels qui étaient présents, que ce soit au moment du génocide au Rwanda, que ce soit au moment de Srebrenica, etc. Donc vraiment que les personnes soient appelées à témoigner lors de plaintes de la Cour pénale, posées dans la Cour pénale internationale, il a été décidé qu'il était interdit aux employés de Médecins sans frontières de témoigner. Parce que justement, ça nous amenait exactement dans ce travers, c'est que comment est-ce qu'on va vous faire confiance sur le terrain si on pense que ce que vous voyez va être utilisé contre, bien sûr, des personnes qui ont tout à fait raison d'être jugées par la Cour pénale internationale, mais ça crée une autre confusion entre humanitaire et justice, comme on a d'autres confusions humanitaires, militaires, etc., etc., qu'il faut absolument éviter si on veut préserver cet espace qu'on a beaucoup de peine à préserver, mais qui soit neutre, indépendant, impartial, je veux dire, et ça tout tourne autour de cela.
Monsieur.
Le témoignage et action humanitaire. Le témoignage, par définition, c'est un pluriel, évidemment. Action humanitaire, elle est multiple. Même si elle peut se formuler au singulier. Mais témoignage et être témoin, parce que je veux revenir au propos de Madame Messer que j'ai entendu tout à l'heure, qui formulait ma question. Parce qu'elle a bien dit que témoignage et être témoin. Donc, sur le terrain, si un de vos délégués, s'il est témoin, il a bien vu, il n'a pas témoigné, donc il pourrait être accusé de non-assistance aux personnes en danger. S'il a été inculpé et accusé, il a mérité. Mais sur l'information, j'aimerais vous souligner l'information, la communication, la pluralité d'informations. Dans le temps, c'était, quelle que soit la pluralité, ça marche comme ça. Et de l'autre côté, il n'y a qu'une seule information. Donc ça marche bien, le soleil, le beau temps. Jusqu'au lendemain de la fin de la guerre froide et le droit international humanitaire il commence à s'épanouir. Alors là, en plus, on a été surpris, le monde entier a été surpris par une nouvelle génération qui vient d'arriver, celle des nouvelles technologies. Et on a même pas bûché sur son appellation au début. On disait Infotech, et puis on disait Antique, et puis on disait IDCs, oui. Et toutes les nouvelles applications qui ne cessent pas de succès. Mais j'aimerais souligner sur, parce que nous vivons maintenant en société d'information, et que la déclaration de la société d'information, c'est le droit à toute personne de produire et de diffuser l'information dans les instruments de nos jours, ça se multiplie. Donc cette information, elle est utilisable et utile, n'est-ce pas? Mais sur le silence, parce que le silence est l'or, et quand on se taire, j'aurais aussi posé une question. Dans le cas de génocide du Rwanda, est-ce qu'on avait préservé le silence ou bien on s'est tué? Merci.
Si vous me répondez. Je peux répondre à la dernière question sur le génocide du Rwanda. Le CICR s'est retrouvé en fait, sur place. J'ai des collègues qui étaient à Kigali. Et dans ce cas-là, la parole a été absolument centrale tous les jours. Tous les jours, vous aviez le CICR qui parlait aussi, malheureusement, vu son impuissance et le sentiment extrêmement clair que ce à quoi mes collègues étaient assistés, c'était quelque chose qui les dépassait, qui était une tragédie absolue. Alors, il n'y avait aucun doute, dès le premier jour, qu'on assistait bien à un génocide, et que là, il y a des moments où il faut utiliser sa parole. Et là, la parole était très importante parce qu'elle a permis, elle n'a pas permis malheureusement la prise en compte par la communauté internationale de ce qu'elle aurait dû faire, hein, mais elle a quand même permis, dès la première minute, de poser vraiment la gravité de la situation. Elle était indispensable. Là, il n'y avait pas un problème de devoir moral, c'était de nouveau un devoir d'agir. Et là, mes collègues, qui ont été extrêmement marqués par ce qui s'est passé, ils ont agi immédiatement. Là il n'y avait aucun doute par rapport au fait qu'il fallait prendre la parole dans un cas aussi extrême que ça.
Bien sûr, MSF et le CCR étaient les deux seules organisations qui étaient encore présentes au moment du génocide, tout le reste était parti. Et tout le monde a témoigné. Pour nous, le débat en interne n'était pas est-ce qu'il fallait parler du génocide, ça c'était évident qu'il fallait en parler. Pour nous, le débat en interne était est-ce qu'il faut appeler à une intervention militaire. Et c'est ça toujours le débat. Dans une organisation militaire, est-ce qu'on témoigne de ce qu'on voit, on définit les faits, et après on laisse à d'autres d'en tirer les conclusions et de prendre des décisions, ou est-ce qu'on doit appeler à une intervention militaire. On a été confrontés au même problème lors de la crise du Kosovo. Donc je veux dire, ça c'est vraiment des situations extrêmement difficiles, jusqu'où doit aller l'acteur humanitaire, pas seulement la dénonciation, mais de l'appel à une réaction de la communauté internationale. Donc le fait de témoigner dans ce cas-là, je crois que ça n'a posé aucun problème, mais aussi c'est évident qu'il faut être.
Oui, monsieur, vous
finissez
là. Non, on vient de la parole. Je n'avais pas vu que vous avez le micro, excusez-moi.
Oui, alors ma question, Marc Studer, ma question, elle porte sur la géopolitique. À l'époque de Solferino, on avait des situations assez claires avec une armée, voire deux, contre une autre. Aujourd'hui, si je prends le cas de la Syrie, on a, et je reviens un peu à l'émotionnel et au rationnel, on a des images qui montrent des faits. Quelque chose, une ville qui est bombardée.
Après, est-ce que au niveau de l'analyse, est-ce qu'il y a une connaissance géopolitique qui fait que on n'associe pas automatiquement un bombardement à un régime, mais qu'on se pose la question si le bombardement n'est pas fait par des gens qui feraient croire que... Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Donc la question, c'est je parle de la géopolitique dedans. Manipulation de l'information.
Écoutez, manipulation de l'information, moi je vais vous répondre comme j'ai répondu à M. Lecomte, ça me paraît, ça n'est pas passionnant, mais il paraît dépasser largement ce cadre, et je trouve qu'il faudrait de nouveau 2 heures, et peut-être même d'autres intervenants pour répondre à ça. C'est très difficile. Le problème actuellement, c'est que, un, il y a, comme ça a été dit, il y a une abondance d'informations, mais il y a une difficulté d'accès, je parle là pour les médias, les journalistes, pas pour les humanitaires. À la fois, on est submergé d'informations, mais qui sont toutes, ou à peu près toutes, non indépendantes, donc sujet à caution. Les accès sont de plus en plus difficiles, que ce soit par choix des médias, par les moyens engagés, de plus en engagés, que ce soit surtout parce que les régimes, etc., ont appris à se méfier des médias, ont appris comment il fallait agir pour empêcher les médias d'agir. Ça, c'est un phénomène nouveau aussi depuis 20 ans, à peu près 20 ans. Donc c'est ça le problème. Alors, pour moi, le problème, c'est pas d'abord information, désinformation. Moi, je vois pas tellement le problème d'abord dans les gens mal intentionnés. Ils ont toujours été là, les gens mal intentionnés qui voulaient informer à leur profit, ne serait-ce que par des armées, c'était leur rôle. Le problème, c'est que l'observation indépendante est de plus en plus difficile pour différentes raisons. Ça,
mais peut-être juste, au fond, le point principal, on l'a déjà dit avant, mais vous l'avez dit, nous, on a un devoir, alors les humanitaires, je pense particulièrement les CSR, et je pense que ça peut parler de 27, on a un devoir qui est encore plus grand, sans doute, aujourd'hui, de réserve, de vérification, et on doit faire très très attention, pas seulement avec les informations, mais aussi avec les mots. Je vous donne l'exemple du Soudan et du Darfour. Ça a été très très compliqué pendant plusieurs années parce qu'il y a quand même des gens qui ont utilisé la notion de génocide de Darfour. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Ça vous donne une dynamique totalement différente. Et là, on doit faire extrêmement attention, accepter aussi parfois qu'on ait une certaine humilité parce qu'on n'a pas toujours toute l'information, de quoi on parle. Et ça, c'est à mon avis un des appels. On doit faire extrêmement attention dans le monde humanitaire de ne pas crier plus fort que les mots. Ça, comme ça, il y a une tentation parfois pour venir à la question de la compétition. Et nous, on a vraiment un devoir de réserve très important et accepter parfois de ne pas vouloir mettre la barre encore plus haut, mais d'être très humble. Par exemple, sur la Syrie aujourd'hui, je suis incapable de vous dire aujourd'hui combien il y a eu de morts en Syrie. Je ne sais pas. J'ai aucune idée. Combien il y a eu de morts, ouais. Je ne peux pas vous dire. Il y a des chiffres qui sont dans tous les sens. J'ai beaucoup de peine à vous donner des chiffres déplacés sérieux. Vous en donnez des éléments totalement différents. Et ça, il faut être capable de pouvoir le dire aussi quand vous ne le savez pas. C'est important de le dire quand on ne sait pas.
Moi, j'avais juste une question par rapport à dans le passé, surtout pour le CICR, la discussion quand le CICR dénonçait, c'était lié à une question d'autorité morale. C'est-à-dire que l'institution se demandait si elle devait parler parce qu'elle a une certaine autorité morale. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question d'actualité pour les humanitaires de se sentir investi d'une autorité morale? C'est quand même différent si le CICR ou MSF parle du génocide. Il y a une... Est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est ça ma question.
Je vais peut-être y aller. Alors, on a débattu de ça, justement. Est-ce qu'on a une obligation morale? On a dit non, on n'a pas d'obligation morale. Notre mandat n'est pas ça. Par contre, on est
pas d'obligation, j'ai dit autorité, hein, mais pas d'obligation.
Par contre, on a l'obligation de témoigner si c'est au bénéfice des populations. Et ce qui est probablement le cas, et je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, c'est que de facto, les organisations telles le CICR, MSF et d'autres, hein, je mentionne Amnesty, etc., dont on sait le sérieux des recherches et qui ne vont justement pas dire n'importe quoi, qu'ils ont des personnes sur le terrain qui vérifient les faits, etc. Donc, de facto, on a acquis notre autorité morale. Je ne pense pas qu'en premier lieu, on cherche, nous, en premier lieu, ce qu'on cherche, c'est d'être sérieux dans nos opérations et d'amener l'aide la plus efficiente possible aux personnes en détresse. C'est ça ce qu'on voudrait pouvoir faire. Mais de facto, je pense qu'en effet, probablement, quand le CICR ou MSF dit quelque chose, c'est peut-être plus crédible que quand certains d'autres pensent. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas d'ailleurs.
C'est une question compliquée. Je ne dirais pas que la dimension, non, je dirais pas que la dimension morale vient comme un premier élément de mon décision, en tout cas dans mon souvenir et de ce que je vois aujourd'hui. Il y a un premier élément qui est vraiment un élément d'action, très clair. Alors, est-ce que ça permet de mieux protéger les gens d'une façon ou d'une autre, maintenant, et ce n'est pas maintenant, peut-être demain. Est-ce que ça va permettre? Il y a un très bon exemple pour nous récent qui est assez douloureux, c'est le Myanmar. On a fait un très gros travail au Myanmar, dans les prisons du Myanmar. Et après pas mal d'années, on a simplement pas réussi à faire la différence. Je veux dire, on est confronté à des tortures, à une situation dramatique. Et en fait, on a vraiment travaillé et c'était répété. C'était des problèmes absolument graves. Et au fond, il y a un moment donné où on a touché vraiment la limite de l'action. Et là, le choix, je pense que c'est juste comme vous le posez. Il y a un double élément. On était conscient qu'en dénonçant ça publiquement, on se fermait les portes au Myanmar, grande partie. Mais on s'est aussi dit qu'il y avait une double dimension. Il y avait une dimension, j'allais dire, d'honnêteté, il y a un moment donné où vous devez, moralement, on peut discuter ça, dire où vous êtes, mais il y avait aussi une dimension d'impact. On avait l'impression quand même que ça n'allait pas changer le comportement des autorités maintenant, mais ça allait poser quand même un certain nombre d'éléments qui peut-être dans 3, 4, 5 ans allaient faire changer les choses. Ça, c'est un élément important. Il y a d'autres moments, mais je n'utiliserai pas le mot moral, où on a été des validateurs. Et on a joué sur vos amendements. Je pense que la question aujourd'hui de la détention américaine, par exemple, il y a eu quand même passablement de rapports du CICR qui ont été mis publiquement aux États-Unis par des sources informelles. Bah, on nous a quand même toujours demandé qu'est-ce que vous en pensez. On a toujours donné notre opinion. Hein. On a toujours dit, par exemple, pour Abouraï, oui, ce n'est pas notre analyse, ce n'est pas juste une situation de quelques soldats paumés, c'est bien un système. Et c'est clair, quand vous posez cette discussion-là, vous avez défini aussi le cadre dans lequel les gens vont regarder ces situations-là. Donc on assume cette réalité.
On arrive tranquillement au bout de notre temps. Parce que... Pardon.
Allez, si j'ose...
Vous osez.
Je me pose une question, et je vous la pose. J'ai suivi ces dernières années l'évolution du monde extra-occidental. Et puis nous avons eu ce qu'on appelle les printemps arabes. Bon. Et la lecture des médias et le contact que j'ai avec des connaissances et des amis m'a démontré qu'ils ne comprennent absolument pas la vérité de ce qui se passe. Peut-être que je ne l'ai pas non plus. Mais j'ai l'impression, et c'est ça ma question, est-ce que nous n'avons pas une approche trop occidentale de certains problèmes et qu'on n'arrive pas à communiquer avec un monde où le centre de gravité s'est déplacé de notre structure cartésienne à une structure différente? On ne parle pas probablement au Mali avec les chefs de guerre, encore, est-ce qu'ils ont, sont vraiment investis d'un pouvoir ou est-ce que c'est momentanément un chef? Il a son arme, il a son turban, il dit « je suis chef », mais on ne sait pas si c'est le chef. À l'époque bénie, entre guillemets bénie, où les armées avaient un uniforme, ils se tapaient dessus, mais on voyait bien que ça c'était du cliver, là c'était du bleu horizon, on pouvait dire ça c'est les gentils, ça c'est les méchants. Avec un vision occidentale du problème. Et aujourd'hui, on ne sait pas avec qui on se bat, on ne sait pas avec qui on parle, et ça rend probablement, monsieur d'accord, votre travail très, très difficile.
Ça me mettrait un plus long commentaire, mais disons, ce que je constate, moi, et vous avez raison sur ce que vous avez dit, ce que je constate, c'est que c'est de nouveau deux choses. Une, on doit garder... J'ai vraiment insisté là-dessus parce qu'aujourd'hui c'est un enjeu qui est majeur. On doit absolument garder l'ambition d'être proche de là où ça se passe. La seule façon pour nous comprendre, c'est de rester. Et là où ça a changé, ces 30 dernières années, le CICR ne sort plus des endroits. Nous devons rester, quelles que soient les situations, pour simplement comprendre la dynamique que vous venez de poser. Parce qu'effectivement, il faut pouvoir la comprendre depuis là où ça se passe. C'est très important. Mais pas seulement là où il y a la guerre. Le CICR a gardé son siège à Genève, c'est important, mais nous ne regardons pas le monde depuis Genève. Nous regardons le monde aujourd'hui depuis Pékin, depuis Brasilia, depuis Washington, pour prendre d'autres exemples, ou depuis Jakarta. Et c'est indispensable pour nous, pour avoir une chance de pouvoir, un tant soit peu, avoir un dialogue de qualité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, par contre,
Moi, je suis, mais ça c'est de nouveau l'avis personnel, je reste consterné par l'incapacité que la communauté, je sais pas, que nous tous, peut-être, pardon, la communauté internationale, a de ne pas apprendre de ses leçons. Regardez bien Mali, elle va faire exactement les mêmes erreurs qu'elle a fait en Libye, elle va faire les mêmes erreurs qu'elle a fait en Afghanistan, exactement les mêmes erreurs. Hein. Donc on fait la même chose, on repose des dogmes au début, on annonce qu'il y a une partie des gens qui sont des terroristes, c'est un choix, on peut discuter de ça, et on fait la guerre. Et je peux vous annoncer, il y aura une guerre au Mali. Non, je suis désolé, ça va prendre du temps, je sais ce que c'est dit. Regardez ce qui va se passer au Nigeria, vérifiez ce qui va se passer au Mauritanie. Et je suis désolé de le dire, parce que là, alors, il y a l'incapacité de comprendre qu'aujourd'hui le monde est complexe, qu'il est multipolaire. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de solution facile et qu'on veut systématiquement, est-ce que vous verrez bien, proposer des solutions simples à des mondes complexes. M'inquiète-vous.
J'aimerais juste, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et simplement attention avec le mot vérité. La vérité, elle n'existe pas. Je veux dire, c'est votre vérité, la vérité de quelqu'un d'autre. Et c'est absolument juste que les médias ont une vision comme nous tous, et concentrique. Je veux dire, il y a un moyen assez intéressant, par exemple, regardez un fait sur Al Jazeera en anglais, par exemple, ou sur une chaîne de télévision chez nous. Regardez la vision qui est différente. Donc on arrive quand même à se faire une opinion différenciée, si on veut, et c'est avec les moyens qui existent aujourd'hui. Mais l'objectivité n'existe pas.
Et juste pour finir dans la même note à laquelle j'avais fait allusion avant, vous avez aussi une responsabilité. Vous parlez du printemps arabe, ce qui est sous-tendu votre question, c'est que les médias se sont jetés sur ce printemps arabe en disant tellement combien c'était génial, ça allait changer les choses, etc. Moi, je prétends que ce n'était pas tellement les médias que c'était le public. Parce que reprenez les articles des journaux, par exemple sur l'Égypte à l'époque. Au début du mouvement, moi j'ai le souvenir que depuis le début du mouvement, il y a des journalistes qui disaient attention, c'est pas si simple que ça, c'est pas une majorité, les frères musulmans sont là, il y a la campagne d'Égypte, ça va pas se passer comme ça, etc. Le problème c'est qu'on est tous pris dans une telle euphorie qu'on veut croire qu'une chose, et puis après qu'on s'aperçoit que c'est plus complexe que ça, on a dit ah, on a été mal informé. C'est aussi votre responsabilité, comme l'a dit Thérèse avant, de ne pas regarder que le téléjournal, aller chercher l'information aussi où elle est. Je ne vous accuse pas de ça, mais je crois que c'est la complexité, elle est là pour tout le monde, et tout le monde est là pour essayer de s'en faire quelque chose.
Juste une petite remarque à propos de printemps arabe, c'est une remarque d'historien. Parce que nous avons beaucoup travaillé ça, et les historiens savent très bien que le printemps des peuples auquel faisait référence le printemps arabe a échoué. Et il a réussi 15 à 20 ans plus tard. Ce qui veut dire, moi j'avais été en Syrie, j'ai fait un voyage en Syrie, j'ai trouvé des gens merveilleux, et quand j'ai vu surgir cette expression printemps arabe, j'ai commis une chronique dans une agence de presse protestante, disant, attention, ce qui va débuter, c'est une guerre civile qui va durer longtemps, parce que le printemps des peuples n'a pas réussi tout de suite, etc. Hein. Et alors, c'est une chose qui était fatale, on a négligé un point, c'est que ces crises-là, pour se résoudre, il faut du temps, hein, et on ne peut pas exiger des Arabes aujourd'hui qui réussissent en quelques semaines, ce que les Européens ont mis 30 ans pour réussir, c'est simplement ça. Et alors, seconde chose, alors c'est plutôt pour terminer sur une note un peu gay, mais j'ai un médecin qui est syrien, qui disait que j'ai écrit cette chronique, il m'en parle, je ne sais pas que quel médecin. Et puis j'ai dû changer de coiffeur, c'est hallucinant. Mon coiffeur, brusquement, s'est révélé être un Kurde syrien. Bon. Alors cette semaine, comment là, j'ai dû aller à la fois chez le médecin et chez le coiffeur, et j'ai eu en direct, une information. Le coiffeur me dit, ah, j'ai téléphoné hier avec ma famille dans le Kurdistan syrien, etc. Et puis, pendant que j'étais chez le médecin, il a reçu un coup de téléphone de ses cousins qui sont dans le nord de la Syrie. Vous voyez, le Saint-Pékin, aujourd'hui, peut être confronté avec la situation, l'analyser, c'est évidemment très difficile, mais brusquement, vous avez deux avis, de gens que vous connaissez, qui vous expliquent votre point de vue, leur point de vue sur la situation. Ça rend évidemment la situation très très complexe pour tous ceux qui veulent agir, etc. Parce qu'on sait très bien que pour contrôler un témoignage, il faut du temps.
Ce sera le mot de la fin, on le fera. Merci, merci. Oui, on pourrait faire un séminaire sur la série dans une année, pourquoi pas. Merci à tous, merci aux participants, merci à vous.
Avec l'intensité d'un échange pareil, tout le monde a envie de parler à son voisin, etc. 3 minutes. Tout d'abord, pour vous remercier toutes et tous d'être venus, d'avoir donné votre temps, vos compétences, votre avis, et de nous avoir aidés à progresser sur les chemins de l'humanitaire, de l'information, et puis peut-être aussi des visions très occidentales du monde, hein, qu'on trimballe et qu'on a toujours un petit peu envie d'imposer aux autres. Hein, c'était aussi un peu votre conclusion. Et puis j'aimerais quand même remercier l'Institut National Genevois qui nous a accueillis ici, et vous dire que vous pouvez très bien prendre un petit bulletin d'adhésion, j'ai pas d'action hein, sur cette opération-là, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez aussi prendre un petit bulletin d'adhésion à la société Henri Dunant, c'est aussi possible, mon Dieu, pourquoi pas. C'est quand même l'occasion pour moi de remercier spécialement François Bunion, Françoise Dubesson, Antoine Fleury, Guy Lecomte, qui ont participé de façon extrêmement active au ce qu'on appelle le conseil scientifique de l'opération, les choix, les non-choix, les séances et tout. Et puis remercier aussi les membres du comité de la société Henri Dunant qui ont assuré toute la petite logistique. Je pense à Bernard Dunant et son épouse, Tony Gugisberg, Béatrice Gauthier et puis Michel Maury Moignet qui est une sorte de nouvelle recrue, Ariane Vogel, Maria Franzoni, Claire Dunant, Madeleine Nirley qui malheureusement a dû nous quitter il y a 2 jours parce qu'elle a eu un petit malaise, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Marc Studer qui s'est aussi dépensé pour la très belle soirée qu'on a eue hier à la Villa Dufour, et Olivier Jean Dunant. Et puis j'aimerais pas oublier Elisabeth Moignet qui est la représentante de la famille Moignet qui a mis aussi son cœur à cette réussite. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous remercie de votre intérêt.